Chapitre 81. Les participants se sont octroyés un temps de réflexion avant de confronter leurs recherches sur d'autres lieux capables de dissimuler un accès. Certains échangent de façon informelle, d'autres relisent leurs notes. Charles discute à voix basse avec l'archiviste. Un peu à l'écart, Vincent se dégourdit les jambes en réfléchissant à ce qu'il vient d'entendre. Des informations essentielles ont émergé, apportées par des gens qui savent de quoi ils parlent. Bien qu'ils ignorent tout de leur identité et de leur parcours, il suffit de les écouter pour comprendre que tous possèdent un savoir, une stature et bien plus d'expérience que lui. Au point qu'il en est intimidé, tous ont dans la voix la sérénité de ceux qui s'expriment en connaissance de cause. Aucune prétention, mais des buts. C'est la première fois que Vincent assiste à une réunion de ce niveau. Jusque-là, il n'a été confronté que très rarement à des esprits aussi instruits et il n'était au mieux que leur prestataire. Cette assemblée est différente. En est-il le spectateur ou l'associé? Chacun des participants est un expert dans sa discipline. En est-il réellement un dans la sienne? Même s'il a réussi à percer le secret de l'entrée du tunnel avec l'aide d'Henri et pas mal de chance, il n'a pas été capable de déjouer celui de la grille immergée. Attiré par l'un des globes terrestres géants, il s'en approche. Les terres émergées sont représentées en ocre, les océans en blanc cassé. L'objet est une véritable œuvre d'art, et ce qu'il symbolise donne le vertige. Tous ces continents, ce vaste monde sur lequel tant de civilisations se côtoient ou se succèdent, chacune avec son histoire, ses apogées, parfois son déclin, toujours ses mystères. C'est la planète entière que Vincent appréhende tout à coup. Il peut la faire tourner d'un seul doigt. Bien que la sphère soit d'une très belle taille, il pourrait l'enserrer entre ses bras ou, tel Atlas, la porter sur ses épaules. La cartographie de ce globe ne date que de quelques décennies et pourtant elle est déjà dépassée. En le remarquant, Vincent est perturbé. La multiplication des voyages a rendu obsolète nombre des tracés tenus pour véridiques lors de sa fabrication. Le globe exposé dans l'autre angle est bien plus ancien, et c'est encore plus frappant. Devant ces mers d'un bleu délavé et ces contours de continents fantaisistes, même quelqu'un doté d'une instruction aussi générale que Cavell est aujourd'hui en mesure de pointer d'innombrables erreurs qui furent autrefois présentées comme des vérités par les savants et les explorateurs les plus éminents de leur temps. Dans son dos s'élève la voix de la géographe. Notre Terre vous laisse perplexe? Pour le moins. Entre ces deux versions, tout ce que l'humanité a découvert de la planète saute aux yeux. Le lieu où nous nous trouvons a précisément été créé dans ce but. C'est ici qu'étaient vérifiées et répertoriées les données rapportées lors des grandes expéditions maritimes, voilà plus de 2 siècles. Cornelli, le moine cartographe italien qui a réalisé ce globe en 1688, était alors parfaitement instruit des connaissances scientifiques. Pour le profane que je suis, il est surprenant de mesurer à l'œil nu tout ce qu'ignoraient nos anciens. C'est flagrant, même par rapport au globe le plus récent. Que de progrès accomplis! La femme esquisse un sourire. Leur soif d'apprendre était la même que la nôtre. Ils ne bénéficiaient simplement pas des mêmes moyens. Chaque jour, la science et l'expérience nous en offrent de nouveaux. Je crois même que le phénomène s'amplifie et s'accélère. Nous comprenons de mieux en mieux notre monde. Nous pouvons désormais tous faire l'étonnant constat qu'un enfant d'aujourd'hui en sait davantage qu'un savant des temps reculés. Vincent promène son doigt sur les côtes erronées du continent sud-américain. Je n'en avais jamais pris conscience. Gardez-vous d'en tirer des conclusions hâtives. Nos enfants ne sont pas surdoués, ils bénéficient simplement de l'héritage de ceux qui les ont précédés. Ceux qui nous ont ouvert la voie ne peuvent pas être considérés comme des sots. Ils ont pris des risques, avancé dans l'inconnu, révélé les découvertes sur lesquelles nous nous appuyons pour aller plus loin. Nos ancêtres nous lèguent les résultats de leurs audaces, de leurs échecs, de leur insatiable curiosité. Ils sont ceux qui ont oser tenter. Vincent est aussi séduit par le propos que par l'intensité de la conviction de cette femme étonnante. Ce que vous venez de comprendre en regardant ces globes terrestres J'en ai moi-même pris conscience en découvrant la Bibliothèque impériale, l'ancienne bibliothèque royale de la rue de Richelieu. J'étais encore une toute jeune fille. J'accompagnais mon père qui devait consulter des archives. Pendant qu'il s'affairait, je me suis aventuré dans les allées. Tout était si grand, si haut. Elle s'anime, paraît revivre son souvenir. J'ai été subjugué par le lieu et ce qu'il contenait, philosophie, biologie, mathématiques, astronomie, chimie. C'est sans doute là qu'a germé mon goût pour la connaissance. Tout ce savoir concentré sous un même toit, ces milliers de vies consacrées à étudier, à chercher, à comprendre. J'en ai été bouleversé. Je suis ressorti assoiffé d'infini, affamé d'apprendre. Son regard revient au présent en croisant celui de Vincent. Une question cependant ne m'a plus quitté depuis, au point de m'habiter. Que faisons-nous de tout ce que nous avons appris? À quoi nous servent ces savoirs et ces moyens développés de plus en plus vite? Sommes-nous meilleurs pour autant, ou seulement plus gâtés? Ne gaspillons-nous pas les chances qui nous sont offertes, car malgré les connaissances qui s'accumulent, il est un héritage que nous ne parvenons pas à dépasser, notre nature animale. Nous gardons encore nos réflexes de bêtes, ces peurs instinctives qui nous empêchent de voir grand et de nous élever. Les anciens ont rêvé d'idéaux que nous oublions, que nous avilissons en les rabaissant au rang de lois ou de dogmes vidés de leur signification profonde. Les voies du commerce se multiplient plus vite que celles de la sagesse. Nous perdons de vue notre véritable intérêt et le chemin parcouru. Nous consommons le quotidien sans plus regarder au loin. Lorsque je vois les peuples se contenter de distraction, je prends peur, car ce qui fut conquis peut se perdre. Et pourtant, il faut garder la flamme et l'esprit si nous voulons survivre. Elle désigne le globe ancien à la cartographie approximative. Que penseront nos descendants de nos civilisations? Comment ceux qui viendront après nous jugeront-ils nos actes? Le contour qu'ils révéleront de notre mentalité sera-t-il aussi primitif que ces côtes fantasmées qui ne correspondent à rien? Sans se douter de ce qui l'interrompt, Addison apparaît à leur côté. « Je vous prie de m'excuser, mais notre archiviste vient de me confier un élément qui me paraît de la plus haute importance. » Charles fait signe à l'archiviste de les rejoindre. « S'il vous plaît, répétez-leur ce que vous venez de m'annoncer. » « Nous avons déjà établi qu'avant la construction de la maison de Nicolas Flamel, une tombe se trouvait sur le même emplacement et qu'elle dissimulait alors sans doute l'entrée du tunnel. » Vincent confirme d'un hochement de la tête. L'homme poursuit. « Nous avons logiquement dirigé nos recherches vers les bâtiments datant de la même période, aux alentours du XIIIe siècle, susceptibles d'avoir été liés aux croisades, aux ordres religieux ou de chevalerie. Mes recherches ont donné tant de solutions possibles qu'aucune ne se détache, mais mon collègue théologien m'a orienté sur un autre domaine. Dans les archives, j'ai découvert l'existence d'une autre tombe, datant de la même époque que celle d'Enguerrand de Tardenay, à une distance qui pourrait la relier avec le tracé supposé du tunnel. « Une sépulture templière ? » interroge Vincent. « Mieux que cela, elle était située dans les soubassements même de la tour du temple. » La tour fortifiée qui dominait l'enclos des Templiers, s'étonne Cavel, celle-là même, la pièce maîtresse du vaste domaine qu'il possédait. Addison et Vincent échangent un regard. L'archiviste complète. Cela pose tout de même un sérieux problème. L'enclos du temple a été rasé et la tour démolie. Il n'en reste rien. Si cette sépulture s'y trouvait, elle est aujourd'hui rayée de la carte. À peine découvrons-nous une lueur d'espoir que nous la voyons déjà s'éteindre. Voilà qui me désole. Vincent se fige avant de s'exclamer comme un illuminé. Bon sang ! Addison reconnaît là l'exaltation qui l'avait tant inquiété lorsque Cavel était revenu à lui. Que vous arrive-t-il, mon ami ? Vincent sort les carnets de sa poche et les feuillette avec fébrilité.
J'ai lu quelque chose sur cette démolition dans les notes de Robert Houdin, j'en suis certain. Il parle d'une étrange affaire autour de cette fameuse tour du Temple.
Chapitre 82. Le ciel s'est assombri en peu de temps et les averses se sont abattues sur Paris en cette matinée grisâtre. Quand ils atteignent l'extrémité nord de la rue du Temple, c'est le square du même nom qui se dévoile progressivement à la vue de Charles et Vincent. Les deux hommes ralentissent le pas pour évaluer les abords des lieux. Afin de préparer cette visite essentielle, chacun a étudié de son côté durant une bonne partie de la nuit. À eux deux, ils espèrent comprendre. Autour de la vaste esplanade centrale, des immeubles cossus achèvent de se construire dans les derniers emplacements disponibles. Le marché du carreau du Temple attire fripiers et tailleurs. Les commerces se multiplient. Le promoteur Charlot a réussi à rendre le quartier attractif et s'est même offert au passage une rue portant son nom. Addison relève son col. Goguenard, il lorgne le chapeau melon de Vincent, dont les bords font gouttière. Un petit filet d'eau s'en échappe au ras de son visage. Malgré le sérieux des circonstances, Charles ne peut s'empêcher de taquiner son compagnon. Comprenez-vous enfin l'utilité d'un couvre-chef ? Vincent esquisse un mince sourire et secoue la tête comme un chien qui s'ébroue, projetant de l'eau sur son complice. Il ne lâche cependant pas des yeux le square du Temple qui s'étend devant lui. Certains arbres sont déjà de taille respectable. Les allées sont désertes, personne ne se promène sous la pluie, aucun enfant ne joue près de la pièce d'eau et de sa cascade ornementale. Aucun vendeur de journaux à l'horizon. Seuls les ouvriers et livreurs n'ont pas le choix et poursuivent leur activité en dépit du temps. Sur la chaussée, contournant l'îlot de verdure, les chevaux tirant leurs attelages dégoulinent et font triste mine. Au-delà, la nouvelle mairie se dresse, imposant son statut officiel. Achevée voilà à peine 20 ans, la construction de style néo-renaissance, flanquée de deux ailes, abrite les services administrant le 3e arrondissement. Arrivez-vous à repérer les traces du passé dans ce décor ? Demande Charles à Vincent.
Je pense oui. Votre archiviste est un homme admirable et d'une grande efficacité. Il m'a bien renseigné.
Beaucoup de nos compagnons sont remarquables. J'ai d'ailleurs cru noter que vous vous êtes bien entendu avec l'avocate du diable.
Vincent ne relève pas, préférant se concentrer sur son sujet. Il a fraîchement étudié l'histoire du territoire sur plan et en découvre la réalité. Autant pour se remémorer les choses que pour informer son compagnon, il entreprend de lui expliquer.
Tout le périmètre fut autrefois la propriété des Templiers. Au XIIIe siècle, à l'époque où Paris était loin de s'étendre jusqu'ici, ils s'étaient implantés sur des marais qu'ils ont drainés et asséchés avant d'y établir ce qui allait devenir l'un des plus florissants domaines qui soit. Dès 1210, l'endroit, vaste comme le tiers de la capitale d'alors, comprenait des fermes, des potagers, mais aussi de nombreuses dépendances protégées par une enceinte. Sur l'emplacement de ce square se dressait la maison du maître et, au bout, exactement là où l'hôtel de ville se tient aujourd'hui, s'élevait la tour du Temple.
Addison tourne la tête vers l'endroit que lui désigne Vincent. Celui-ci poursuit.
Haute d'une 50aine de mètres, fortifiée, flanquée de tourelles à meurtrières sur ses 4 angles, cette forteresse était le symbole de la puissance des Templiers. On la voyait de loin, et le roi lui-même l'apercevait de ses fenêtres depuis l'île de la Cité. L'ordre était tout puissant et leur immense propriété constituait une ville dans la ville. Lorsque, au petit matin du 13 octobre 1307, Philippe IV le Bel déclencha l'arrestation préméditée des Templiers partout en France pour les faire condamner sous d'obscurs prétextes, leurs nombreux biens furent confisqués au profit de la couronne. Ils auraient pu se retrancher derrière leurs fortifications. Mais ils se rendirent sans résistance, confiants dans la justice du roi. Les fouilles qui furent immédiatement conduites dans leur domaine, et particulièrement dans cette tour, ne donnèrent rien, et la légende du trésor qui y aurait été enfoui commença à se répandre.
Addison déambule aux côtés de Cavell, en considérant le sol qui a vu s'écrire une autre histoire et que les gens foulent aujourd'hui sans s'en émouvoir ni même s'en douter.
Quelques siècles plus tard, poursuit Vincent, croisades et templiers n'étaient plus qu'un souvenir, et leur tour finit par devenir un bâtiment comme un autre, alors que Paris s'étendait. Un temps laissé à l'abandon, puis réaffecté à d'autres usages, elle devint entre autres un grenier, un magasin sécurisé, puis un casernement. À la Révolution, la tour devint la prison du roi Louis XVI et de sa suite, jusqu'à ce qu'il soit conduit à l'échafaud. C'est de cela que parle Robert Houdin dans ses notes. C'est plutôt un rebondissement intervenu bien plus tard, très près de nous, qui a excité sa curiosité. Au début de notre siècle, en 1808 exactement, Napoléon Bonaparte ordonna que ce qui restait de l'enclos du temple et de ses constructions soit rasé. La version officielle est qu'il craignait que l'endroit devienne un lieu de pèlerinage royaliste en souvenir du calvaire que le souverain y avait enduré. Mais l'historien n'a rien découvert dans les archives de la préfecture qui témoigne d'un tel phénomène. C'est le théologien qui a sans doute mis en lumière les véritables raisons de cette mesure. Si l'empereur semble avoir pris cette décision par crainte d'un sursaut royaliste, il en a été convaincu par un dénommé Ernest Blanchard qui avait, à l'évidence, d'autres ambitions. Cet homme était à la tête d'une entreprise de matériaux spécialisée dans la récupération et la revente de vieilles pierres. C'est lui qui obtint le marché de démolition des derniers bâtiments du temple, dont la fameuse tour fortifiée. Une banale histoire de profit, si les événements n'avaient pas pris ensuite une tournure étrange. Alors qu'il fallut à l'entrepreneur moins de 3 mois pour démonter 6 constructions massives du côté de Montparnasse, il mit plus de 2 ans à raser cette seule tour. De façon surprenante, il ne l'a pas morcelée du haut vers le bas, il l'a d'abord vidée de l'intérieur.
Comme s'il y menait des fouilles ?
Exactement. Peut-être espérait-il mettre la main sur ce qui avait échappé à Philippe le Bel. C'est ce que votre ami Robert Houdin soupçonnait, d'autant que la presse de l'époque évoque également la présence dans les parages de sociétés secrètes qui pratiquaient des messes noires et des cérémonies occultes.
Rien sur une sépulture ?
Si, un témoignage. Des années plus tard, en 1867, à l'occasion de l'inauguration de la mairie que nous voyons aujourd'hui, un des invités déclara à un journaliste, sans doute pour briller, que son père, qui avait travaillé comme jeune ouvrier sur la démolition, y avait découvert une tombe.
Celle que nous cherchons ?
Cavell opine et précise. Elle n'avait été ni détruite, ni déplacée, et elle se trouvait toujours dans les sous-sols du nouveau bâtiment. La presse se fit l'écho de ses propos, et 2 jours plus tard, on le retrouva mort chez lui, d'une cause inexpliquée, alors qu'il était en pleine santé. C'est alors que Robert Houdin s'intéressa à l'affaire et remonta le fil. Addison fouille du regard l'hôtel de ville de ce quartier rénové.
La tombe serait donc encore là, intacte, quelque part dans les sous-sols de la nouvelle construction.
Que diriez-vous d'aller y faire un tour ?